Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'allais vous le dire, c'est le titre très subtil de ce podcast consacré à Christophe Jallet et à sa vie de footballeur, toujours en activité aujourd'hui au Sporting Club d'Amiens. Christophe Jallet qui a accepté de nous parler comme si nous étions ses amis, comme s'il nous aimait bien, nous, c'est-à-dire moi, Hervé Matou, Philippe Doucet, Didou Douce, bien connu dans le monde du foot, qui a su surmonter sa séparation avec sa palette qu'il a quittée pour Dominique Armand. Aline Riera, qui durant de longues années a constitué la charnière centrale de la défense des Bleus aux côtés de Corinne Diacre et qui aujourd'hui fait partie de l'équipe de consultants et de consultantes de Canal+. Et puis celui qui n'a commenté qu'un seul match dans sa vie, mais c'était un classico.
Mais c'est vrai en plus.
OM-PSG, oui, en 2018. Absolument. Avec Julien Cazard. Ça avait été, on peut le dire, du grand n'importe quoi. C'est bien sûr Sébastien Thoen.
C'était l'objectif. Bonsoir à tous.
Christophe Jallet, vous avez la particularité d'avoir joué dans 6 clubs français. Niort, Lorient, Paris, Lyon, Nice et Amiens, donc où vous êtes en ce moment. Paris et Lyon, autant dire que vous avez fréquenté des stars. À Paris, vous avez joué avec Zlatan, avec David Beckham, avec Javier Pastore, pour ne citer qu'eux. À Lyon, vous avez fréquenté Gourcuff, Fekir, Lacazette. Et on va parler de cette particularité, jouer avec des stars. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà votre première rencontre avec Zlatan Ibrahimovic, la première fois où vous le croisez?
La première fois où on le croise, on est en stage de préparation, début de saison aux États-Unis. Et puis on suit l'actualité, évidemment, des transferts, et on voit que Zlatan va peut-être signer ici. On ne s'est dit jamais, c'est pas possible. Et puis finalement, si, on le voit devant la Tour Eiffel en train de faire des jonglages, on se dit tiens, ça va être notre partenaire finalement. Ouais. Et puis la première impression, c'est le colosse qui débarque et voilà. La star, quoi. Donc, on est tout petits, nous, à côté. Donc, c'est vrai que t'as ce sentiment d'être chanceux de pouvoir jouer avec un joueur comme ça, et puis à la fois te dire, maintenant, il va falloir vraiment se mettre au boulot pour le satisfaire.
Vous êtes intimidé, mais faut pas trop le montrer.
Non, faut surtout pas le montrer, surtout pas à lui.
Ouais. Il t'a reconnu tout de suite, non ?
Bien sûr. Il m'a appelé. Il ne m'appelait pas du coup.
Non, mais c'est vrai, quand il arrive, il dit je connais, la Ligue 1 me connaît, mais je ne connais pas la Ligue 1. Ouais. Est-ce que vous sentez qu'avec vous, c'est un peu pareil, que tu connais Zlatan, mais Zlatan ne te connaît pas?
Oui, sans doute, hein, évidemment. Hein. Et puis je n'en veux pas du tout, hein. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est quelque part un petit peu logique. Je ne connais pas tous les joueurs des autres championnats non plus. Donc c'est à toi de te faire un nom auprès de lui et puis de voir qu'il y a du répondant en tant qu'homme et en tant que joueur.
Donc au départ, vous lui tendez la main, ouais. Bonjour Christophe,
oui.
Il vous regarde dans les yeux, il est normal, on va dire.
Oui, complètement, hein. Après on se fait une montagne de tout ça, mais c'est un joueur comme nous, hein. Il fait les mêmes choses que nous. Hein. Bon, il a plus de talent, certes, mais ça reste notre coéquipier, il est là pour nous aider, on est ensemble dans le même projet, donc il n'y a pas de souci.
À l'entraînement, quand on va au contact avec lui, ça se passe comment?
Ça pique. Ça laisse quelques séquelles de temps en temps,
ouais,
parce qu'il est toujours à fond. Donc c'est sa marque de fabrique pour moi. Ce que je retiens, c'est un grand compétiteur pour n'importe quoi. Donc évidemment, l'entraînement, il se donne pas à moitié et forcément. Hein. En plus, moi qui n'ai pas un gabarit hyper balèze, c'est sûr que faut essayer de faire différemment pour essayer de lui prendre le ballon ou pour essayer de l'embêter un petit peu, quoi. Parce que c'est sûr que si on le regarde et puis qu'on lui dit vas-y, évidemment avec le talent qu'il a, c'est trop simple. Donc faut trouver des parades.
Et quand on lui met un petit coup à l'entraînement comme ça, il réagit comment? Il trouve que c'est le jeu ou est-ce que...
Ah non, il se plaint jamais. Franchement, il te le remet par contre après derrière.
Ah ouais, ah ouais. Et là ça fait mal.
Oui, là ça pique. Il y en a qu'on morflait.
On le fait une fois, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais on y va quand même. De toute façon, il sait que c'est le jeu. J'ai jamais entendu se plaindre de prendre un coup à l'entraînement ou quoi. Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est un super compétiteur. Donc, il sait que s'il y a match, il y a forcément des coups. Mais par contre, oui, il ne se gêne pas pour les remettre après.
Pastore, Jallet, Ibrahimovic. La spéciale sur le côté droit. Pastore, Jallet, à la conclusion, l'inévitable, l'incontournable, Zlatan Ibrahimovic.
Et quand à l'entraînement, toujours, ou en match d'ailleurs, mais enfin à l'entraînement, quand on lui fait une passe mal ajustée, comment ça se passe? On le sait tout de suite?
Ouais, entraînement et match, c'est la même chose. Hein.
Ouais.
Enfin, c'est le regard, quoi. Bon, là, on va pas le voir forcément là, sur le podcast, mais sacré regard de tueur. Là, on a tout de suite compris que la prochaine, faut pas la rater.
D'à côté de ça, il est collectif quand même, tu vois. Il va vers toi, il échange, parce qu'il est comment en fait, en vrai, ce mec-là, tu vois, est-ce qu'il est, il a conscience de son image, alors qu'il joue, il a créé un personnage qui avait des envolées lyriques, qui était pince sans rire, grande gueule et tout. Est-ce qu'il en a conscience, est-ce qu'il en rigole avec vous, est-ce que...
Oui, complètement. Tu fais bien de poser la question.
Merci.
Mais c'est quelqu'un de totalement normal, même si il aime bien être le centre. Voilà, il a eu une haute estime de lui, on le sait, mais c'est quand même quelqu'un qui, en fait, il nous tire vers le haut parce qu'en fait, il est exigeant avec les autres, mais parce qu'il a envie qu'on arrive au même niveau que lui. C'est-à-dire que ce qu'il nous inflige comme réflexion, il se les inflige à lui aussi. C'est-à-dire qu'il n'est pas content quand il rate une passe ou il va pas mettre ça sur le dos des autres. Évidemment, quelquefois, tu lui mets un ballon, il n'a pas fait le mouvement, il va t'en vouloir alors que tu pourrais lui dire la même chose. Mais c'est toujours dans une... Enfin, moi, je l'ai toujours perçu comme ça, dans une démarche positive de... Voilà, vous voyez, moi, j'ai ce que je fais pour y arriver, j'aimerais bien que vous fassiez la même chose, en fait.
Mais alors, ouais, imaginons, tu rates deux passes de suite, il te fait une réflexion, et derrière, il te fait une mauvaise passe. Mm-hmm. Tu peux te permettre de lui
bien
dire « Eh oh, tu t'appliques ?»
Ouais, bah, clairement, ouais. Et puis... Je pense que c'est la manière de fonctionner avec lui qui marche le mieux, c'est-à-dire que s'il voit que...
C'est un rapport de force, en fait.
Rapport de force complet, ouais. C'est-à-dire que s'il voit que toi, tu te laisses bouger, t'es mort. Avec lui, c'est foutu. Donc, voilà, faut pas hésiter après à aller le voir et lui dire « Ok, d'accord, moi j'ai raté, mais toi, quand tu rates, je te dis rien, donc calmos, tu vois.
Ouais. »
Mais s'il voit que t'as du répondant, il va te considérer. Par contre, sinon, il t'écrase.
Gilles Grimondi, il y a quelques mois sur Canal, disait, en parlant de Thierry Henry, que c'était un coéquipier alors fabuleux, mais extrêmement difficile, parce que très exigeant, qui mettait une pression de tous les instants à ses coéquipiers. C'est pareil pour Zlatan.
Exactement. Je pense qu'il a bien résumé le personnage.
Dans le vestiaire, il vous calcule. Est-ce que ça devient, au bout d'un moment, un coéquipier normal? Ou jamais?
Oui et non, quand même. Ça devient un coéquipier normal parce qu'on parle de tout. Enfin, moi, je l'avais à côté de moi dans le vestiaire. On était capable de parler de tout, de son livre qu'il a écrit, des matchs, de machin. Mais il y a toujours, à un moment donné, ce petit rapport de dire « bah, moi, j'ai fait ça en plus » ou « moi, je suis... » Voilà, il y a toujours ce petit rapport de force. Il est constamment là-dedans. Et puis, c'est pareil, on va enlever le strap à la fin de l'entraînement. Il va dire « ouais, bah, si tu le... » Enfin, on va jouer à la poubelle. Celui qui le met, voilà, il... C'est, l'autre, c'est une merde, et toi, ouais. Voilà. Et c'est toujours dans ce rapport de force, constamment de compétition, c'est pareil pour les étirements, pour tout, pour chaque truc de sa vie, j'ai l'impression que le mec est en compétition.
Vous parlez en quelle langue d'ailleurs, tous les deux ?
En anglais.
En anglais.
Ah oui, parler un peu en français au bout d'un moment, mais bon, c'était quand même plus en anglais quand même.
Et toi, tu posais des questions sur lui, enfin, ou tu parlais de son bouquin ou autre,
ouais.
Mais est-ce qu'il s'est un jour intéressé à toi ?
Ouais, ouais, bien
est-ce
sûr.
Qu'il t'a posé des questions ?
Oui, ouais, bien sûr.
Ouais, bon,
non, il y avait vraiment un échange avec lui. Pour moi, c'était un partenaire comme les autres. Je pouvais parler de tout avec lui. Il y a quelques sujets où on sait qu'on n'aura pas le dernier mot, donc on ne les aborde pas. Mais sinon, après, justement, lui était des fois en demande de ça parce qu'il sentait qu'aussi, il y avait une certaine appréhension.
Que les joueurs avaient peur de lui, ouais. Et du coup, ne venaient pas vers lui.
Et donc, n'osait pas lui dire les choses. Et lui, prenait les devants en disant « si vous avez quelque chose à me dire, vous me le dites, je suis comme tout le monde. »
J'avais été une fois à Disney pour une opération du PSG. J'avais été très impressionné par son ultra-professionnalisme et le point auquel il couvait les autres, littéralement. C'est-à-dire, il posait des questions. Il disait, alors maintenant, on va où ? Okay.
Même un bourriquet, il posait des questions. Le mec lui répondait hyper sympa, parce que c'est un mec en dessous. Il faut savoir que c'est un costume, bourriquet. C'est pas un vrai bourriquet, c'est qu'il y a quelqu'un en dessous.
Il posait des questions pour les autres, et après, il informait le reste de l'équipe. Enfin, il était dans ce bus à Disney pour une espèce de visite où ils allaient dans 4 ou 5 endroits. Il était leader, comme il aurait été dans le bus de l'équipe, en expliquant aux autres, bon, maintenant, on fait ci, on fait ça, on y va ensemble, etc. Incroyable.
C'était un leader naturel. J'imagine que par exemple, en sortant d'une défaite, il pouvait prendre la parole et tout le monde l'écoutait. Il ne se parlait pas pour l'entraîneur, mais il y avait un truc.
Il devait déchirer tout le monde. Hein.
Ouais, ça c'est sûr. C'est... Ces moments-là, c'était pas marrant.
Non, mais moi, je me pose la question, comment on gère un ego pareil auprès des adversaires? Parce que tu as fait plusieurs clubs.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on est coéquipier d'un joueur comme ça? Déjà, nous, on a du mal. à gérer, mais par rapport aux adversaires, parce que des fois, il a quand même un comportement, oui, on avait sûr. Envie de le baffer, hein, franchement.
Oui, non, c'est clair, mais il peut parfois avoir un comportement détestable, en plus, sur le terrain, que ce soit avec ses partenaires ou avec ses adversaires, et ça s'est chauffé plein de fois avec ses adversaires, et puis j'ai rejoué contre lui après, donc je l'ai eu dans l'autre sens, quoi.
C'est très différent, adversaire. C'est comme si vous vous connaissiez pas ou pas
ouais.
du tout.
Non, mais de toute façon dans le match, voilà, c'est concentration. Après, voilà, après c'est fini. On rigole, on parle d'autre chose quand je retourne dans le vestiaire. Mais ouais. c'est vrai que sur le terrain, il y a pas de, c'est pas ami-ami quoi. Il y a pas de ça, vraiment pas.
Est-ce que ça vous est arrivé au cours d'un match où il était votre coéquipier de rigoler un peu avec un adversaire
ouais.
sur Zlatan?
Oui, c'est clair.
Ouais.
Bah oui. Parce que bon, après, on connaît d'autres joueurs dans d'autres équipes, et ouais. évidemment, après, on peut discuter de différents sujets, surtout les défenseurs qui l'avaient sur le paletot, comme on dit chez moi. Ouais. Ils disent ouais, bah, punaise, qu'est-ce qu'il m'a mis? Il n'est même pas venu s'excuser. Je lui dis tu t'attends à quoi? Déjà, il ne s'excuse pas. Je ne sais même pas s'il s'excuse auprès de ses enfants. Tu crois, toi, il va te dire pardon? T'es malade ou quoi?
Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui t'ont, pour le coup, des joueurs stars? Il y a
alors,
plein de
parler,
joueurs qui ont
si,
dû t'impressionner.
On va parler d'un joueur, quand même, qui est une immense star également avec lequel vous avez joué, qui est très différent, c'est David Beckham.
Ah, ouais. Oui, par exemple.
Parlez-nous
voilà.
de David Beckham. Ah, ça, on le décrit comme un coéquipier hyper facile.
Ouais, la classe. Enfin, vraiment la classe, quoi. Le gars, c'est gros respect pour David.
Alors qu'il est vilain. Qu'est-ce qu'il est vilain?
Non, mais ce gars-là, il a tout. Il est arrivé à Paris sur la fin de sa carrière. Il a fait sa dernière saison chez nous. Et la première fois où il est arrivé dans le groupe, on jouait un match à Valence en Ligue des Champions. Et il a dit bonjour à tout le monde. Donc nous, impressionnés, forcément, David Beckham. Bon, on a le match quand même à jouer le soir. Ouais. Voilà. On monte dans le bus. Et je monte dans le bus et je le vois, il est debout. Et il a attendu que tout le monde s'assoie. Et à la fin, il a dit, est-ce que je peux m'asseoir ici? Il n'y a personne? Ben, on lui a dit, ben non, en fait.
On lui a dit, si, il y a Christophe Gilles.
Non, mais voilà, ça dénote de son état d'esprit, de son respect. Voilà, il a attendu que tout le monde soit à sa place pour demander si lui avait le droit de s'asseoir.
De ne pas prendre une place.
Exactement.
D'un joueur. Ouais.
Il y a une anecdote qui est un petit peu connue dans le milieu, mais vous allez peut-être pouvoir nous la confirmer, nous la raconter. Mm-hmm. C'est lors d'un fameux barbecue chez Sylvain Armand. Ouais. Sylvain Armand qui convie David Beckham à ce barbecue. Mm-hmm. Et Beckham vient, tout le mm-hmm. monde est un peu surpris. Et
avec les Spice Girls.
Il est hyper sympa.
Ça a été dingue, il paraît.
Une Spice Girl, c'est
Non mais oui, top. Bah, Sylvain l'a invité en se disant qu'il ne viendrait pas. Et puis finalement, il est venu. Et,
il a fallu racheter les saucisses.
C'est ça.
Non, voilà, ça, vous inquiétez pas pour Sylvain, il y avait toujours ce qu'il fallait. Mais non, mais c'est surtout de le voir comme un gosse avec nous. On jouait au Palais Vendéen.
Il n'avait jamais entendu parler de ça, bien
bah,
sûr.
Ben non, mais il jouait avec nous comme si... putain, c'est David Beckham, quoi. Ouais. Nous, pour nous, c'est quand même incroyable. Mais au bout de 5 minutes, on se dit plus, c'est David Beckham, c'est notre pote, quoi. Il est là, s'intéresse à tout le monde. Voilà, on voit des cartes de bonne année, de meilleurs vœux tous les ans. Enfin, je veux dire, c'est quand même... ouais, moi, j'ai un gros, vraiment un très grand respect pour David en tant qu'homme et joueur avec tout ce qu'il a fait. C'est vraiment voilà, le personnage au niveau de l'humilité, c'est incroyable, quoi.
Il vous donnait des conseils vestimentaires?
Il pouvait pas, il venait toujours en survêt. Ah ouais, là, il venait toujours en survêt capuche, tranquille.
Est-ce qu'il y a un autre joueur dans la catégorie star qui vous a marqué? Au Paris Saint-Germain.
À Paris.
Qui était le plus star dans tous ceux que vous avez côtoyés, à part ces deux qui sont des stars évidentes?
Ben non, après, y avait de grands joueurs.
On peut être un grand joueur sans être une star.
Bien
hein,
sûr, bien sûr. Donc après, c'est toute l'image qu'on renvoie qui fait qu'on est une star ou pas et comment on se positionne. Mais à Paris, oui, pour moi, c'était les deux seules stars. Ouais. Après, les autres, c'était des très grands joueurs de football.
Il y a une hiérarchie dans un vestiaire, Christophe Gélé. Ouais. Une hiérarchie de statut, une hiérarchie salariale également. Est-ce que ça compte? Est-ce qu'on a ça en tête?
Bah, pas tout le temps. Non. Bon, quand on est arrivé au niveau du PSG, ça compte plus vraiment. Ce qui compte, c'est quand même les performances. Donc, je n'ose pas imaginer une seule fois que le statut salarial permette à un joueur de jouer plus qu'un autre à Paris. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans d'autres clubs, mais en tout cas à Paris, je ne pense pas.
Mais dans un club peut-être plus modeste, mm-hmm. il y a, on va dire, les 2-3 gros salaires.
Ouais.
Ça leur donne fatalement un statut particulier, non?
Je pense qu'ils ont plus de crédit que les autres. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de plus de se tromper. On va moins leur en vouloir de rater 2-3 matchs que si c'est un gars qui sort du centre de formation, ça c'est clair, ouais. C'est une évidence. Mais après, ça fait partie du jeu, hein. À chacun de gagner le crédit suffisant pour pouvoir être comme eux.
Aline Riera, vous avez connu le foot féminin à l'époque où c'était un peu moins pro, mais est-ce qu'il y a ça aussi, cette hiérarchie dans le vestiaire d'un club féminin ?
Ben forcément, parce que la starisation, c'était pas encore là. Il y avait quasiment pas de médiatisation. Alors, c'était plus les mouvements interclubs étaient quand même très rares. On faisait quasiment toute sa carrière. Ou alors, on partait pour faire des études ou pour un boulot. Mais c'était assez peu. Moi, c'était vraiment le début de l'arrivée des étrangères, des américaines qui arrivaient dans les clubs Montpellier, Lyon. Donc, moi, j'ai pas vraiment connu. Il y a quelques joueuses qui sont arrivées avec un statut. Marinette Pichon, par exemple, qui est arrivée à Juvisy, mais qui venait d'un tout petit club, qui était déjà international. Donc ça se joue pas comme ça. Nous on avait déjà notre propre statut et c'est vrai qu'on avait du mal à faire de la place, faut le dire comme c'est, hein, à faire de la place à des joueuses qui arrivaient avec un statut international. C'était difficile, la concurrence elle était forcément plus difficile à ce moment-là, donc l'intégration se faisait peut-être plus difficilement. Mais des stars vraiment, moi j'en ai pas connu directement. Mais faire la place à quelqu'un qui va prendre la place d'une pote, qui va... Ouais. Voilà, ça reste quand même assez compliqué. Nous, il n'y avait pas d'histoire de salaire, mais il y avait quand même des histoires, alors pas des passe-droits, mais une gestion un peu différente. Quand on a fait 10 ans dans un club, quand on est capitaine du club, voilà, on n'a pas envie que quelqu'un qui arrive comme ça vienne nous prendre un peu le statut, prendre la place. C'est quand même pas très facile.
Il y a des stars partout dans tous les clubs. À New York, il y avait des stars. Enfin, des stars, pas au sens où on l'entend avec Zlatan Ibrahimovic,
oui,
mais il y a le star de chaque club, la star de chaque club, en fait.
Bah, complètement. Hein. C'est pour ça que ça fait partie après du rôle de l'entraîneur aussi. C'est ce qui, pour moi, aujourd'hui, est le plus difficile pour un coach, c'est de gérer les égos. Et
d'être juste en fonction des statuts.
Il faut essayer d'être juste. Et puis, à la fois, chaque joueur a des besoins différents. Il y en a qui ont besoin d'être câlinés. Il y en a qui ont besoin qu'on leur tape sur les doigts. C'est ça le plus difficile aujourd'hui, c'est de savoir quoi faire avec quel joueur. Et malheureusement, ces histoires de statuts peuvent parfois un petit peu déranger.
Le premier joueur que vous avez regardé avec un statut de star dans vos yeux, c'était qui ? Y compris à New York ou à Lorient ?
Je sais pas trop. Les premiers que j'ai regardés, c'est ceux qui étaient titulaires en Ligue 2 quand j'ai débarqué dans le groupe Pro à New York. C'était, ouais. Pour moi, c'était genre un joueur
c'était
comme...
aussi gros que Ibrahimovic.
Mais bien finalement. Sûr, pour moi, c'était exactement le même. C'était exactement la même chose. Il y avait Samuel Michel qui était meilleur buteur de Ligue 2
très
en
bon
activité.
Buteur de Ligue 2. Ouais.
Bah ouais, meilleur buteur de Ligue 2 en activité. Pour moi, voilà, c'était quand je m'entraînais en face de lui, je me disais waouh. Ouais, c'était quelque chose de fort, quoi. Donc pour moi, c'est ça les premiers, quoi.
Et aujourd'hui, un joueur, tu joues pas forcément avec lui, mais qui t'a impressionné, que tu as vu sur le terrain récemment, dans la jeune génération?
Kylian, ça c'est Mbappé, oui. Forcément.
Vous avez été dans son vestiaire ou pas? Non. Hein.
Ah bah si, en sélection.
Ah, en sélection, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'on sent qu'il a la graine de star, qu'il se comporte comme une star?
Ah, qu'il se comporte comme une star, moi je ne l'ai pas connu comme ça en tout cas. Ouais. Il est arrivé...
Parce que la graine de grand joueur, j'en parle même pas.
Ah oui,
bien
ça
sûr.
C'est clair. Ouais. Non, il est arrivé sur la pointe des pieds en sélection, pas de bruit. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Après... comme je le disais tout à l'heure, on évolue dans une carrière.
Et ce qui se passe pour lui, c'est qu'on est en train de dire ça, qu'il serait peut-être en train de prendre, vu certains
mais
comportements qu'il a pu avoir, mais on n'est pas sûr. Après, encore une fois,
non. C'est ça. Après, il y a des choses qu'on peut montrer. Je veux dire, le langage du corps, ça parle quelquefois beaucoup plus que la parole. Et c'est vrai que quelquefois, on pourrait être dérangé. Mais on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de tout non plus. Donc c'est facile de tirer sur l'ambulance, j'ai envie de dire. Mais... je lui donne pas raison, je lui donne pas tort, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que des fois, on renvoie pas une bonne image sans le faire exprès. Et malheureusement, je pense que c'est ce qui paye un petit peu.
Dès qu'il voit Philippe, il fait un selfie. C'est lui qui te demande le selfie. C'est pas vrai, Philippe ?
Mais j'ai toujours refusé.
Voilà. Donc, tu vois, t'as une mauvaise image, du coup.
Ouais, mais la difficulté, c'est d'accepter pour un entraîneur, de trouver vraiment, c'est sur le fil de rasoir tout le temps, quelques passe-droits pour les joueurs tête de gondole et puis pas perdre le reste, quoi.
C'est exactement ça.
C'est vrai qu'on dit ça, que quand un joueur fait gagner l'équipe, il peut tout se permettre quelque part, que les coéquipiers disent c'est pas grave, il nous fait gagner.
Pas tout.
Il peut pas tout se permettre.
Mais ça dépend peut-être du club. Excuse-moi.
Ça dépend du club.
Voilà, parce que c'est ce qui se passe au PSG, que Neymar et Mbappé font vraiment ce qu'ils veulent, entre guillemets, mais c'est l'impression qu'on a.
Bah, je peux vous donner un autre exemple que j'ai vécu, c'est Mario Balotelli à Nice.
Oui.
On le sait tous, un comportement qui est pas toujours exemplaire. Mais l'année où moi j'y étais pas encore, mais juste avant que j'arrive, où il termine sur le podium, Mario, il a mis je sais plus combien de buts, plus de 20 buts dans la saison. Et même s'il n'a pas toujours été performant, même s'il a des fois raté des entraînements, le coach l'a sanctionné parce que très souvent à l'extérieur, il ne débutait pas les matchs. Mais c'est quand même lui qui a fait gagner l'équipe pas mal de fois. Donc évidemment, il y a forcément un peu plus d'indulgence vis-à-vis de lui.
Mais,
ça,
mais
c'est
dans son
indéniable.
Comportement, dans son comportement dans le vestiaire ou autre, est-ce qu'il y avait des traces de justement de starisation et de comportement invraisemblable de la part de Balotelli?
Ça pouvait arriver de temps en temps, mais c'est lui quoi. À la façon d'Ibra, il a un personnage. Bah, Mario a un personnage aussi. Après, la seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a un, c'est un hyper compétiteur professionnel et l'autre un peu moins. L'autre, c'est beaucoup plus de talent dès le début, quoi.
Donc, tout le monde le supporte dans le vestiaire. Tout le monde supporte dans le vestiaire un Balotelli, un Ibra, où il y en a qui sont complètement allergiques à ce côté star. Il y en a.
Ibra, c'est plus facilement acceptable parce qu'il donne toujours le meilleur. Même si des fois il passe à côté parce qu'il a fait des matchs de merde, comme tout le monde.
Oui.
Mais on sait qu'il n'a pas triché. Alors que Mario, des fois, on se dit qu'il nous prend vraiment pour des cons. C'est ça qui fait mal.
On est d'accord que pour être une star, il faut avoir un comportement de star pour être vu comme ça.
Bah oui, c'est clair, ça va avec. Il y a pas de... Ça va avec le personnage. Enfin, si on veut être une star, c'est qu'il y a... Bon, mis à part pour David... Beckham, oui. Qui lui a ce côté star aussi parce qu'il est marié avec quelqu'un qui est encore... Parce que lui disait... C'est pas moi la star, c'est ma femme. Hein. Ouais. Parce que moi, quand je vais dans un endroit, c'est pas moi qu'on vient voir, c'est toujours elle.
C'est pas toujours vrai, à mon avis. Mais
non,
bon,
mais
c'est une formule.
C'est ce qu'il disait. Il disait, ouais. je peux prendre le train tout seul, il n'y a pas de problème, je vais passer un voyage tranquille. S'il y a ma femme à côté, c'est mort. Donc, il a ce côté star aussi parce qu'il a sa vie privée qui est rentrée en ligne de compte. Les autres stars du foot, c'est parce qu'ils ont un comportement de star footballistique.
Ouais. Alors justement, vous avez joué à l'Olympique Lyonnais avec la star qui ne voulait pas être star. Johan Gourcuff, vous qui avez connu des gens qui adorent être stars, manifestement, est-ce que tout de suite vous avez senti que lui n'aimait pas ça?
Il y en a qui le supportent beaucoup moins. Moi, quand je suis arrivé à Lyon, il était déjà dans une phase un peu compliquée. Ça faisait déjà deux saisons qu'il était là où ça ne s'était pas hyper bien passé. Et c'est quelqu'un de plutôt introverti et qui n'aime pas l'exposition. Et par la force des choses, il y a été soumis. Et je pense qu'il l'a, ouais, il l'a très mal vécu. Et avec le syndrome de l'équipe de France d'Afrique du Sud, ça n'a pas arrangé les choses. Et je pense qu'il a vraiment eu du mal à s'en remettre. Et faut vraiment se mettre à sa place. Et c'est vrai que quand on pourrait dire il a tout, il est beau, il gagne de l'argent, il joue au foot, il fait un métier qu'il aime. Mais si sa personnalité, c'est pas ça, c'est difficile de vivre à contre-courant, quelque part. Donc, oui, il avait tout, mais c'est pas pour autant qu'il le vivait bien.
Quel bon ballon de Bizevac pour Jallet. Jallet en retrait. En retrait pour Gourcuff. Johan Gourcuff, dès la 47e minute, qui marque sur ce service impeccable de Christophe Jallet.
C'est la starification, finalement, qui lui a fait du mal.
Ouais, sans doute, ouais. Bah, clairement, je pense.
À Lyon, vous avez fréquenté également Lacazette et Fekir, qui, alors, on va dire, ils n'étaient pas déjà les joueurs qu'ils sont aujourd'hui, mais enfin, ils étaient un peu plus tard que vous, Christophe Jallet, mais vous étiez quand même, vous avez été le capitaine de Zlatan. Donc, quand vous arrivez, c'est le rapport de force, il est comment?
Moi, il est... De toute façon, je me place pas du tout au-dessus des autres, peu importe. Donc, je suis arrivé en tant que joueur de l'Olympique Lyonnais, essayer de faire une bonne saison avec eux. Et puis, de toute façon, c'est vrai que quand je suis arrivé, ils étaient vraiment au tout début de leur carrière. C'est cette saison-là qui leur a permis de devenir important. Puisque Alex a fini meilleur joueur de Ligue 1 à la fin de la saison. Nabil a fini meilleur espoir de Ligue 1 à la fin de la saison. Donc, c'est tout le boulot qu'ils ont fait cette saison-là qui leur a permis d'avoir le statut qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils ont eu après. Donc, le mérite leur en revient. Et il n'y avait pas de... Vraiment, quand je suis arrivé dans ce groupe lyonnais, il n'y avait pas de... aucun statut. Franchement, bon, c'était quasiment que des joueurs issus du centre de formation qui se connaissaient tous. Donc, voilà. Celui qui avait peut-être le plus haut statut, c'était sans doute Clément, puisque Grenier, qui était déjà en équipe de France.
Ouais. On comprend mieux pourquoi vous avez aussi bien navigué dans ces vestiaires de stars. C'est que vous êtes quelqu'un de modeste et de ne pas jaloux. C'est important, ça, franchement.
Je suis pas envieux. J'estime déjà avoir énormément de chance. Je vois pas ce que je peux envier de plus aux autres. On part tous avec un talent, avec surtout beaucoup de travail à accomplir pour réussir. Moi, je peux juste être fier de tout ce que j'ai mis pour pouvoir avoir cette carrière. Voilà, j'ai bossé au jour le jour sans oublier de vivre à côté. Mais je pense que c'est pas pour tout le monde pareil, mais moi j'avais pas besoin de me rajouter des handicaps avec la jalousie pour pouvoir réussir. Donc je pense que je le vois plutôt comme un frein. Et moi ce que j'aime c'est être au contact des gens. J'aime apprendre du joueur, de l'homme. Et je pense que oui, c'est sûr que c'est clair et net que ça, ça a été une de mes forces.
Aujourd'hui, vous êtes à Amiens et vous avez un palmarès, vous êtes international. Mm-hmm. Et là, je ne vous chambre pas, je suis sérieux. Bah, vous êtes la star d'Amiens, vous êtes une star à Amiens.
Pas du tout. Non, parce que je n'ai plus des performances qui sont au niveau de ce que je pouvais faire quand j'ai gagné ces titres. Et le foot, c'est un éternel recommencement. Aujourd'hui, je n'ai plus les mêmes qualités qu'avant et il y a des joueurs qui en ont beaucoup plus que moi. Donc, on va dire que sur le papier, oui, si on cite le CV, et encore, il y a Mathieu aussi qui a beaucoup gagné avec Lyon.
Mathieu Bonnemer
et avec Paris. Donc, mon statut, il ne vaut rien du tout. Pour moi, c'est aujourd'hui, je dois prouver que je ne suis pas mort. C'est tout.
Cette jambe de bois, c'est gênant, par exemple. Pour centrer, par exemple.
Avec le crochet, c'est mieux pour faire
les touches. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Tu vois, Hervé, il ne voulait pas le dire, mais on le voit.
Est-ce qu'on peut être une star en s'appelant Jallet?
Non.
Il faut un nom avec un Itch,
non, pas
Igno, ou je sais pas, non,
bah,
non, ça marche pas.
Il aurait dû jouer à l'étranger, du coup.
Jallet-Igno, on peut, non?
Ouais, disons que dans le championnat de France, pour être une star, d'ailleurs, c'est un phénomène français, ça. On est plus à dénigrer ce qu'on fait chez nous plutôt que ce qui arrive de l'extérieur. Donc, c'est plus facile d'être une star quand on est un joueur étranger que quand on est un joueur français.
Est-ce qu'on peut être une star sans avoir un tatouage?
Oui, je pense. Oui. Même si ça devient compliqué aujourd'hui.
Et un catogan, vous, c'est difficile, un catogan.
Moi, c'est mort. Ouais. Bah, lui, il avait tout. Zlatan, il avait tout. Il avait tout ça. Il avait tout réuni pour en être une.
C'était pas une postiche.
C'était un vrai.
Après, c'est une question de nature aussi. Hein. Ouais, les gens qui veulent être une star se mettent en avant plus facilement, aiment bien répondre aux médias. Statut qu'on cherche aussi.
C'est clair.
C'est sympa pour Hervé.
Star et champion n'est pas forcément la même chose.
Non.
Star et champion n'est pas forcément la même chose. Même s'il y a un Ibra, je pense qu'il était clairement les deux à la fois. Et oui, je suppose que vous aviez une énorme admiration pour le champion.
Parce que c'est d'abord un champion. Bah, complètement. Puis il faut être conscient de tout ce qu'il a pu apporter, même s'il avait des côtés énervants. Il y a des fois où on se disait, mais qu'est-ce qui nous saoule? Mais il faut voir tout ce qu'il nous a apporté, et dans la rigueur, et dans le travail, et dans l'efficacité. Donc. Voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est comme tout à l'heure, il y a des joueurs qui font gagner des équipes, lui il a quasiment gagné partout où il est passé. Bah, il y a un moment donné, oui, peut-être que ce joueur, eh ben, on le traite différemment, c'est logique.
Est-ce que ça repose d'évoluer, comme c'est le cas aujourd'hui, à Amiens, dans un vestiaire où il n'y a pas de grosses stars? Est-ce que quand vous arrivez à l'entraînement, vous dites, ah, je ne sais pas encore me fader cette pression?
Je ne vais pas me faire zlataner.
Ben non, parce que la pression, elle est quotidienne. Là, on a des pressions de résultats. Nous, on n'est pas bien classés, donc il y a une pression de résultats. Et puis, peu importe le vestiaire où vous êtes, quel que soit le club, il peut y avoir des joueurs qui s'autoproclament stars de leur équipe.
Ça, c'est encore plus embêtant.
Et donc, alors qu'ils n'ont rien fait.
Oui.
Et donc ça, c'est encore plus dur à gérer que le mec qui en est vraiment une. Ouais. Parce que lui, il a prouvé. Ça, c'est plus dur.
Ouais, les starlettes, c'est dur.
Bah ouais, c'est un problème, en fait. Mais ouais. Ça,
star,
je pense...
Ne me regarde
pas comme ça, Christophe. Ne me regarde pas, tu dis ça, tu vois, depuis tout à l'heure. Pourquoi tu veux...
Non, je pense que c'est
un... Il y en a beaucoup dans le foot, des fausses stars, entre guillemets.
C'est un problème aujourd'hui de... C'est un problème...
Aujourd'hui, donc, c'est les jeunes que tu vises.
Je vise personne en général, mais... fondamentalement...
Jérémy Ménez?
Non, mais quelque part, c'est vrai que le système du foot nous oblige à en créer. C'est-à-dire que des jeunes qui ont 15-16 ans aujourd'hui, ils n'ont encore rien prouvé dans le football, mais on leur donne déjà des contrats. On donne des contrats à leur famille. Ils ont la possibilité de faire des études. Ils ont déjà tout sans n'avoir encore rien prouvé. Juste... Parce que si on ne lui donne pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Du coup, quelle valeur on lui inculque à ce joueur? Bah, qu'à 16 ans, il est déjà meilleur que les autres. Et quand il va arriver dans un groupe pro, il va se croire meilleur que les autres. Et il ne va pas forcément vouloir écouter. Ce n'est pas la majorité des cas, hein, c'est pas ce que je dis. Mais potentiellement, à cause du système, on crée des fausses stars qui ne le sont pas encore, malheureusement.
Quand vous avez débarqué à Niort, à 15 ans, vous n'auriez pas imaginé que vous alliez jouer avec ce type de joueur, bien sûr, Zlatan, Beckham.
Ah bah non, ça c'est clair que c'est... Je me suis fait beaucoup de fois le flashback, le retour en arrière, en me disant « Punaise, si jamais un jour je suis joueur de Ligue 2, putain mais quelle chance quoi !» Et puis c'est vrai que parce que des fois on oublie, on est pris dans le quotidien, il y a des matchs tous les 3 jours, et on est en train de se plaindre de notre condition, parce qu'il faut savoir que le footballeur est un éternel insatisfait, on n'est jamais content de ce qu'on a. Et du coup, quelquefois, de se poser et de se dire, tu te rappelles quand tu voulais juste être joueur de Ligue 2? Alors profite de ce que t'as, Et vraiment, je remercie, c'est un cadeau du ciel. Bon, j'ai quand même travaillé pour y arriver, mais c'est vraiment une chance que j'ai eue de pouvoir arriver à ce niveau-là, côtoyer des joueurs comme ça, de représenter mon pays. J'ai eu vraiment une chance incroyable et je suis vraiment juste fier de ça, d'avoir pu me donner l'opportunité d'y arriver.
Ça vous a appris beaucoup de choses sur les hommes, de fréquenter des grandes stars comme ça, dans l'intimité ?
Ouais, parce que, comme beaucoup, on se fait souvent une image de quelqu'un par rapport à ce qu'il renvoie ou ce qu'on dit de lui. Et finalement, quand on creuse, quand on connaît la personne, quand on le côtoie au quotidien, eh ben, on s'aperçoit que l'habit ne fait vraiment pas le moine. Et ça, c'est vraiment un adage qu'il faut vraiment prendre en compte. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de Jérémy Ménez. Ce joueur.
Assez méchamment, bien sûr, comme souvent, Sébastien Thauvin.
Pas méchamment, non. Je dis joueur. Parce que,
mais il a cette image-là.
Il a cette image-là, c'est pour ça que j'aurais.
Jérémy, il renvoie cette image. Exactement. Du gars nonchalant, bourré de talent.
Qu'en fait, il est nul et non.
Non, c'est un gars, c'est un gars en or. Je l'adore, Jérémy. Il est vraiment attachant. Il donnerait sa chemise. Il est toujours volontaire. Évidemment, il a des excès de colère. Il a un caractère qui est parfois pas compréhensible.
Non, mais il s'est fait avoir sur des vidéos, enfin, il y a des histoires à côté dont il est victime d'ailleurs, plus ou moins, parce qu'on s'en fout de savoir ce qu'il fait de sa vie privée. Il a payé ça.
Oui, c'est vrai. Mais bon, après, moi je parle juste du terrain. C'est vrai que des fois, il a des réactions un peu épidermiques sur des fois où il ne voulait pas rentrer parce qu'il n'est pas rentré en premier, par exemple. Et ce gars-là va être jugé sur la place publique. Et au final, quand tu discutes avec lui, tu lui expliques, il dit ouais, c'est vrai, j'aurais jamais dû faire ça. Ce côté-là, les gens ne l'ont pas à côté, alors que humainement, c'est quelqu'un qui va le regretter, qui va s'excuser, mais ça, personne ne le voit, évidemment. Et c'est vrai que ça t'apprend vraiment sur la vraie personnalité des gens et de ne pas les juger trop vite parce que des fois, on se trompe.
En parlant des joueurs, justement, quand t'as un immense potentiel comme ça et qui ne vont peut-être pas au bout de leur talent, quel regard vous portez, vous, Christophe Jallet, qui avez fait beaucoup avec peu de talent, pardonnez-moi, mais...
Non, mais c'est la vérité.
Vous avez fait une carrière exceptionnelle.
J'ai optimisé.
Vous avez optimisé votre talent, parce que, je répète, pour être ne serait-ce qu'un joueur de Ligue 1 et de Ligue 2, il faut un talent immense.
Bien sûr.
Et qu'il y en a un sur 100 déjà qui fait ça, donc ne croyons pas qu'un joueur moyen de Ligue 1 est un footballeur moyen. Mais en tout cas, voilà, vous avez optimisé votre talent. Quel regard vous portez sur des joueurs qui étaient 100 fois plus talentueux que vous et qui ont fait une carrière beaucoup moins prestigieuse que la vôtre?
C'est souvent ce qu'on se dit, mince, avec le talent qu'il a, il aurait pu faire mieux. Alors, quelquefois, ça m'est arrivé de le dire aussi, mais c'est incroyable quand même, avec le talent qu'il a, il n'y arrive pas, c'est pas possible. Hein. Et quand on va chercher un peu plus loin, faut prendre le contexte. C'est vrai que c'est hyper dommage. Mais bon, sinon, il y a des joueurs comme moi qui ne feraient jamais rien, si chacun exploitait son talent au maximum.
Un tout, on a l'intelligence aussi, le mental.
Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, l'environnement dans lequel on vit, on a vécu, l'éducation, les fréquentations. Et quelquefois, malheureusement, on est un peu victime de ça et on se perd en route. Et j'ai des fois été méchant avec des joueurs en leur disant « je ne comprends pas ». Et finalement, en se disant, des fois, les excuser en disant « punaise, c'est pas de leur faute parce qu'ils vivent dans un contexte qui n'est pas facile ». Et ça, on l'oublie souvent. Et un joueur de foot, c'est pas seulement du talent, c'est aussi beaucoup dans la tête. Pour moi, c'est 70% de mental pour y arriver, pour performer et surtout pour durer. Et quelquefois, il y a des à côté qui font que on se trompe de chemin, on se fait mal conseiller, on se fait mal influencer, on a un cadre familial qui est vraiment complexe et dont on n'arrive pas à se sortir. Et ça, évidemment, quand on regarde un match de foot, personne ne le prend en compte. Mais avant d'être des joueurs, on est des hommes et quelquefois, les mots des hommes se transmettent aussi sur le terrain et brisent parfois des carrières ou en tout cas ne font pas du joueur ce qu'il aurait pu devenir.
Le jour où tu seras entraîneur, si tu l'es, que le fait d'avoir côtoyé d'immenses champions et des stars dans le style de Ibra, par exemple, te permettra justement de savoir traiter le talent qui est là, mais dans une personnalité qui est pas affirmée et qui peut tomber dans les dérives que tu viens de décrire. Est-ce que tu auras, grâce au fait d'avoir justement côtoyé ces stars, est-ce que tu sauras peut-être mieux faire qu'un autre?
Je sais pas, ça peut donner certaines clés. Après, on n'est pas les parents des joueurs, on n'est pas derrière eux tout le temps. Et c'est assez compliqué on peut donner des directions, on peut donner un cadre, un chemin, mais on n'est jamais complètement décisionnaire. S'il a envie de se perdre, il va se perdre. Malheureusement, c'est un tout. En fait, je pense que pour qu'un joueur un peu fragile, mais avec beaucoup de talent réussisse, il faut qu'il y ait un coach et un staff qui soient capables de lui donner les bonnes directions, mais aussi qu'autour de lui, ça soit assez fiable, parce que sinon, à un moment donné, forcément, ça va être compliqué. Et évidemment que le rôle d'entraîneur là-dedans, il doit être important, mais le problème, c'est que s'il doit gérer 30 cas individuellement, c'est difficile de s'en sortir. Alors oui, on peut donner des clés, on peut donner des orientations, mais me dire moi aujourd'hui, ah ouais, parce que j'ai joué avec eux, je saurais mieux faire qu'un autre, absolument pas.
Autour de nous, il n'y a qu'une seule starlette, c'est Sébastien Thauvin. Mais il ne faut pas lui en vouloir, il a eu un contexte très difficile.
Ah oui, vous savez, grandir en Syrie.
Il va terminer ce podcast avec vous, Christophe Jallet. Il vous pose des questions thauvinesques, hein, bien sûr, auxquelles vous devez répondre.
Absolument, c'est un petit peu un 1-2 sur les starifications, tes stars préférées, jingle. Christophe, tu es prêt? De possibilité, un choix, ton choix.
Ok.
Mbappé ou Griezmann?
Oh, c'est quoi cette question?
Eh ben, réponds ce que tu veux, tu nous saoules. Pardon, ça tourne.
je vais dire Antoine, parce que j'ai partagé plus de moments avec lui.
Real ou Barça?
Barça.
Caris ou Booba?
C'est qui?
Je peux dire c'est qui, mais tout est possible. Christophe, on est en famille.
Non, mais je connais les deux. J'ai plus écouté de Booba dans ma vie, quand même.
Ancelotti ou Angèle? Angèle, c'est un peu la Michel Thor de maintenant.
Ah oui, mais je l'aime beaucoup. Oui, j'aime bien.
Donc Angèle plutôt.
Ben non, plus Ancelotti, mais c'est, ouais, j'aime beaucoup ses chansons.
Delon ou Belmondo?
Belmondo.
Bien, t'en rates pas. Hein.
Non.
J'aime beaucoup Delon aussi. Hanouna ou Rio Mavuba?
Hanouna, il me fait beaucoup plus rire.
C'est que Mavuba se marre tout le temps aussi.
Non, mais j'aime bien Rio, on s'est côtoyé aussi, mais bah, voilà.
En animation, il est moins bon.
J'aime bien passer une heure devant ma télé à regarder Hanouna, ça me détend.
Attends, celle-là, on va se marrer.
Ouais.
Laurent Blanc ou Michel Blanc?
Michel Blanc, je suis un fan inconditionnel des bronzés. Donc,
Laurent Blanc, t'as eu quelques soucis?
Non, j'ai pas eu de soucis, mais tu me demandes qui je préfère. Je préfère Michel Blanc, parce que les bronzés, c'est les bronzés.
Plus, non,
les bronzés, c'est les bronzés.
Ceará ou Oaro?
Oaro. Ah ouais, c'est
et pourtant, tu disais qu'avec Ceará, t'avais pas de problème, alors que t'es arrivé en concurrence directe.
Oui, c'est vrai, aucun problème, mais Guillaume, c'est mon gars sûr.
Stéphane Plaza ou Stéphane Cessaignon?
Ah, Stéphane Cessaignon.
Ouais, s'il te plaît.
Parce que, mes maisons à vendre, ça va 2 minutes. Quoi.
José Mourinho ou Nadine Morano? Mais dis pas que t'es de gauche!
José Mourinho.
Fort Boyard ou Danse avec les stars?
Ouais, Fort Boyard, 1000 fois.
Parce que tu y as participé.
Parce que c'est pas loin de chez toi.
Ouais, c'est pas loin de chez moi, je l'ai fait. Et puis c'est surtout que.
Danse avec les stars, c'est horrible.
Et puis oui, et puis ma fille, elle adore Fort Boyard, donc voilà, ça, la question ne se pose pas.
Et enfin et surtout, Domenech ou Dominique Armand?
Ah, Dominique Armand, la palette, c'est génial.
Comme tout le monde.
Eh ouais, évidemment.
Sacré Philippe, la palette aussi.
Ouais,
merci à
double
tous.
Palette.
Merci Sébastien Thauvin. J'allais vous le dire, Jeu de mots, c'était le podcast du Canal Football Club que vous retrouvez sur MyCanal et sur les plateformes de podcast. Merci beaucoup, Christophe Jallet.
Avec plaisir.
Merci à tous. On vous donne rendez-vous très bientôt en podcast sur Canal+. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts et à retrouver tous les épisodes sur MyCanal et sur les plateformes d'écoute en ligne. À très bientôt donc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.